Vous êtes sur RTL.
Grete, Mbappé, juste...
Pardon, mais il y a Brigitte Macron, quand même.
Et c'est ce que j'allais
Merci
vous dire.
De ne pas l'oublier.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Je suis frappé de la présence aux côtés du chef de l'État, toujours et tout le temps, de Brigitte Macron. C'est-à-dire que lorsque Jacques Chirac est allé à Clairefontaine, Madame Chirac n'était pas là. Lorsque Nicolas Sarkozy est allé également régulièrement à Clairefontaine avant des matchs importants, sa compagne ou son épouse n'était pas là.
Vous savez ce qu'il dit d'elle ? Elle est mon indispensable.
Mais je pense que c'est très intéressant et en ce moment, et on voit peut-être, j'allais faire un commentaire politique, la campagne électorale se mettre en place. Elle était très présente dans le déplacement du chef de l'État en province et elle est avec lui aujourd'hui à Clairefontaine. Je vous le répète, les compagnes ou les épouses des présidents de la République n'étaient pas présentes lorsqu'ils sont allés avant un grand rassemblement. Le championnat d'Europe va commencer dès demain. Le match de l'équipe de France, c'est le 15 juin contre l'Allemagne. Donc Brigitte Macron est présente avec lui. Et vous l'avez dit, elle est indispensable.
Elle est son indispensable, c'est beau.
Un peu comme vous avec moi, dans cette tranche.
Je reviens demain, donc.
Exactement,
hein,
dans cette tranche horaire. Merci Christelle.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
On pourra évoquer d'ailleurs Emmanuel Macron à Clairefontaine. Philippe Sanfourche est dans la maison, donc s'il veut venir avant cette fin d'émission. Tout à l'heure, on pourra évidemment parler de cela. Mais pour le moment, c'est un sujet infiniment plus grave, les féminicides. Et nous sommes avec Anna, qui est une avocate. Il y a des nouvelles mesures. Et Anna, vous dites ces mesures, vous pensez qu'elles ne seront pas assez efficaces. Pourquoi ?
Eh ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai entendu, aménager la peine, ça n'évitera jamais quelqu'un de déterminé d'aller faire son travail, entre guillemets. C'est-à-dire que, en tout état de cause, une expertise psychologique avant d'aménager une peine, je vois pas très bien comment, en pratique, ça peut se faire vu le nombre de personnes qui en auraient besoin. Il y en a déjà pas énorme. Enfin, c'est, ça a un coût d'abord, donc faudrait déjà mettre des moyens. Et si on a de l'argent pour faire ça, on a peut-être de l'argent pour faire autre chose que ça de plus efficace. Et s'ils sont déjà condamnés avec des peines de prison fermes qu'on aménage, c'est que ce sont déjà des personnes très dangereuses et déterminées. Donc je vois pas très bien en quoi ces mesures vont être plus efficaces. D'autant que l'article 712.1 du Code de procédure pénale dit que le juge d'application des peines a la possibilité de contrôler. Le juge peut faire procéder aux modifications qu'elle juge nécessaires au renforcement des contrôles de l'exécution de la peine. Donc c'est des prérogatives que le juge a déjà.
Alors, je voudrais que vous me décodiez, Elisabeth Moreno, qui est donc la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a annoncé le lancement dans les tribunaux d'une instance de suivi judiciaire des situations individuelles qui va réunir à la fois magistrats, forces de sécurité intérieure, services pénitentiaires d'insertion et de probation, en concertation avec les structures qui traitent les violences faites aux femmes. Concrètement, ça veut dire quoi, ça ?
Concrètement, c'est qu'au lieu que chacun agisse dans son coin sans se parler, ce qui semblerait logique, hein, qu'elle se parle, visiblement, dans notre système, c'est pas aussi évident que ça.
Donc il y aura une instance pour rassembler tous ces avis.
Alors que ça me semble, enfin, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas besoin de rajouter, ça devrait être automatique, ça devrait être automatique. Et il n'y a pas besoin de rajouter une instance encore, on adore ça en France, hein, empiler les administrations, les tribunaux, et je ne suis pas sûre que ce sera plus efficace. Encore une fois, soit c'est quelqu'un de dangereux, on l'enferme, soit c'est pas quelqu'un de dangereux, on ne l'enferme pas.
Bon, les 3000 téléphones grand danger d'ici 2022, c'est efficace ?
Ben on verra. Ça, je ne peux pas vous le dire.
D'accord. Parce que pas d'aménagement de peine sans expertise, vous y avez répondu. Mise en place d'un fichier des auteurs de violences conjugales, je disais tout à l'heure, je m'étonne que ce ne soit pas déjà en place.
D'accord, moi aussi. C'est quelque chose qui aurait dû être en place depuis longtemps. Mais est-ce que le fait qu'il y ait un fichier va empêcher quelqu'un qui a envie de frapper, de tuer sa conjointe, de le faire ? Est-ce que le fait d'être inscrit dans un fichier, ça va l'empêcher de le faire ?
Et élargissement du recours au bracelet anti-rapprochement, ça c'est intéressant ?
Oui, si vous... Non. Franchement.
Mais vous êtes avocate, hein, moi je vous pose la question, vous connaissez le terrain mieux que moi.
Non, mais c'est ce que je veux vous expliquer, c'est que quelqu'un de déterminé le fera. Ce sont des gens déterminés.
Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais oui, mais s'ils n'ont rien fait avant?
Mais comment ça, s'ils n'ont rien fait avant?
Avant de passer à l'acte, ils n'ont pas été d'une violence qui justifie l'enfermement?
Pas du tout, je vous parle de personnes dont on aménage la peine parce qu'ils ont été condamnés à une peine. Ce n'est pas des personnes qui n'ont rien fait, c'est des personnes qui
te demandent... Mais un jour, ces gens vont sortir.
Peut-être qu'un jour, ces gens vont sortir, mais alors peut-être qu'au lieu de faire toutes ces mesures, faire en sorte qu'on les rééduque, on leur enlève... Souvent, c'est des problèmes d'alcool, souvent, ce sont des problèmes de drogue, souvent, ce sont aussi des problèmes culturels. Il y a dans certaines cultures, je parle pas forcément des cultures de très loin, hein, culturellement, c'est des choses qui se font, donc ça se rééduque. Alors, passer justement ce temps d'enfermement à la rééducation pour réduire ce temps d'enfermement.
Merci Anna.
Voilà.
Merci on entend vos réserves, évidemment. Et vous pouvez continuer de réagir sur ce sujet. Je salue Greg Caranoni, bien évidemment.
Bonjour à tous.
Bonjour, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, tous azimuts, et notamment celle du sport. Je l'ai dit, vous pourrez bien sûr réagir, mais également vous pourrez réagir sur l'année scolaire, qui est, paraît-il, trop courte, notamment pour les élèves de seconde, première, terminale. Mais je disais qu'à mon époque, c'était déjà un sujet qui existait. Et puis, tous les autres sujets, évidemment, sont possibles et inimaginables, et même imaginables. Donc, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après le féminicide de Mérignac début mai, a-t-on suffisamment pris conscience des violences que peuvent subir certaines femmes? Comment en finir avec ces défaillances dans le système? Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, était l'invitée de RTL Midi.
Il faut que nous renforcions les dispositifs de protection des victimes. Il faut qu'il y ait un meilleur suivi des auteurs de violences conjugales, soit lorsqu'une plainte est déposée, soit lorsqu'ils sortent de prison. Et il faut aussi qu'il y ait un partage accru des informations et une meilleure coordination des acteurs locaux et en l'occurrence de la police et de la justice.
Et nous attendons vos témoignages au standard. Avez-vous subi des violences? A-t-on pris au sérieux votre plainte? Qui a pu vous aider? Étiez-vous au contraire totalement isolé? Eric s'énerve sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Ce n'est plus des défaillances à ce niveau quand on voit le nombre de détraqués multirécidivistes libérés sous bracelet. Beaucoup de blabla craint Marie-Paul. Et je pense que cette fois-ci, rajoute Aurélie, que tout le monde a pris conscience des violences que peuvent subir certaines femmes. Toutes les victimes doivent être prises au sérieux, écoutées, défendu et bien sûr protégé.
Nous sommes avec Eddy, et je me souviens qu'Eddy était intervenu déjà plusieurs fois au printemps. Bonjour Eddy, vous êtes policier à Marseille.
Tout à fait, bonjour Pascal.
Et votre témoignage est intéressant parce que vous êtes né, nous disiez-vous, il y a plusieurs semaines dans des quartiers difficiles, donc vous connaissez assez bien ces populations. Aujourd'hui, vous êtes policier et peut-être que cette expérience vous sert au quotidien. Alors, vous êtes intervenu, je crois, récemment auprès d'un mari qui frappait son épouse.
Tout à fait. Ben, c'était le week-end dernier, je vous explique, hein, c'est la dame qui a appelé. Alors, sur cette intervention, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'emprise psychologique qu'avait le jeune homme. Il avait 22 ans, sur la jeune femme. Ils étaient de Paris, ils sont venus en week-end à Marseille, l'individu était connu pour des violences envers cette femme. Et je lui ai expliqué, mais pourquoi êtes-vous encore avec lui? Elle me répond, il a tellement une emprise sur moi que je n'arrive pas à m'en défaire. Le seul moyen que j'ai eu ce soir-là, donc c'est pendant la nuit, c'est qu'il est bu. Et il s'est endormi, elle a quitté la chambre d'hôtel, elle nous a appelé. On a réussi à l'interpeller. Et je vous le dis, hein, nous, au niveau policier de terrain, c'est ce genre d'affaires, ce genre de problème, on ne le prend pas à la légère. Il n'y a aucun officier de police judiciaire qui shooterait ce genre d'affaires. C'est-à-dire qu'on nous appelle, à peu près, vous avez entre 4 et 10 appels par nuit, ce genre de problème. Eh bien, on intervient, on est obligé d'intervenir, on interpelle, quasi-totalité des cas, on l'interpelle, que ce soit des menaces verbales, des menaces physiques ou des violences à proprement parler. Je vous assure qu'il y en a de plus en plus. C'est l'impression que ça donne.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, la femme vous appelle, vous intervenez, vous allez dans la chambre d'hôtel, manifestement.
On faut taper à la porte et l'individu est sorti. Il était totalement torché, comme on dit, excusez-moi l'expression. Il était totalement bourré, on l'a interpellé.
Il était quelle heure?
Minuit et demi, une heure.
Là, vous avez le droit d'ailleurs d'intervenir en...
Ah oui, ouais. Oui, si on n'intervient pas dans la chambre pour en parler, on le fait sortir, il est sorti dans le palier, on l'a interpellé sur le palier. Mmh. Ça, c'est autorisé. Non, on n'a pas le droit d'entrer dans la chambre, ainsi de suite, là, c'est certain.
Il avait frappé donc quelques heures avant sa compagne.
Quelques heures avant, tout le week-end, il avait frappé. La dame était tellement sous l'emprise de son mari.
Elle était marquée ?
Elle était marquée.
Bon, dans ces cas-là, la femme d'ailleurs, elle est à l'hôpital pour constater.
Tout à fait.
Bon, donc vous ne pouvez pas l'interroger parce qu'il est dans un état de d'ébriété avancée. Donc pendant quelques heures, j'imagine, il est en cellule de dégrisement.
Vous avez tout compris. Mais je vous le dis, ni la justice ni la police ne prennent ces affaires à la légère.
Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est après. Alors, donc après, il est interrogé quand ?
Dans la journée, et c'est ce que j'ai dit à la dame. Vous savez, votre compagnon va aller en prison. Parce que je suis certain que la justice va être sévère avec l'actualité qui se passe actuellement. La justice est sévère. Ne plaisante pas avec ça. Et les mesures actuelles qui sont proposées sont, pour la plupart, très bien. Il n'y a pas de petites mesures pour lutter contre ce fléau. C'est un fléau.
J'entends bien, mais alors vous l'interrogez, il est dans la négation des faits ou il les reconnaît ?
Non, alors nous, on n'a pas pu l'interroger parce qu'on est des équipages interpellateurs. On est le premier maillon, en fait, avec la victime. On interpelle après aux officiers et aux agents de la journée, les policiers de la journée en charge judiciaire, qui auditionnent l'auteur et la victime.
Et vous savez comment s'est passée cette audition ? Ce qu'il a dit ou ce qu'il a reconnu ou pas ?
Mais je pense qu'il a dû reconnaître à la fin. Il était connu pour ça. Sachez qu'il a déjà fait de la prison.
Pour ça. Ces raisons-là ?
Pour ces raisons-là.
Il est et sorti. C'est quoi le profil de cet homme ? C'est un homme qui travaille, qui ne travaille pas, qui...
Bon, ce jeune-là, c'était quelqu'un qui était déjà connu pour d'autres antécédents et qui est connu pour violence, mais il n'y a pas de profil type, hein, je vous le dis. Hein. Ça peut aller du chef d'entreprise au commerçant, au chômeur, il n'y a pas de type, c'est vraiment...
Ça s'est passé le week-end dernier, on est aujourd'hui jeudi, cet homme, il est où en ce moment ?
Je pense qu'il est en prison.
Donc là, il a été mis directement à la case-prison.
Oui, comparution immédiate, il n'y a pas de... Il avait déjà une interdiction.
Il a été jugé, vous dites, comparution immédiate ?
Je pense, oui, ouais. Je pense. Je pense sincèrement, parce que c'était vraiment... L'affaire était en gros pour nous, c'était carré. Il y avait la victime, il y avait les violences.
Et sa compagne, elle est où aujourd'hui ?
Je pense qu'elle a dû rentrer et remonter à Paris, en banlieue parisienne.
Et ça, c'est assez banal, par exemple, dans l'exercice de votre profession, ou ça reste quand même...
Non. La nuit, je vous le dis... Les femmes, il y a une libération de la parole, les femmes appellent plus souvent le 17. Et chaque appel, il y a une réponse, sachez-le. Nous, en Marseille, ça se passe comme ça. Chaque appel au 17, sur ce genre de fait, il y a une intervention de police. C'est aussi simple que ça.
Bah merci, Eddy. Merci, Eddy. Ce qui pouvait m'intéresser également, puisque entre le moment où vous intervenez dans cette chambre, le moment où vous l'amenez sans doute au commissariat, vous avez pu échanger avec cet homme, même s'il était dans un état d'ébriété. Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il justifie d'une certaine manière ? Est-ce qu'il regrette ?
Monsieur Pro, c'est sa chose. Sa femme, c'est sa chose. Ça lui appartient. Il a une sorte de pouvoir. Donc cette emprise psychologique s'affirme par moments en mettant des coups.
Ça fait peur, en fait. Ça fait peur. Et vous savez ce qui fait peur ? Parce qu'il y a sans doute beaucoup d'hommes comme moi qui sont en train d'écouter et qui sont des pères de filles.
Oui, j'ai des nièces.
Et qui se disent, en vous écoutant, mais si ma fille... tombe sur un homme comme ça et qu'elle n'a pas les réflexes, pourquoi pas, parce que ça peut arriver. Les profils de ces femmes-là aussi, j'ai envie de dire, ça peut arriver à des gens très forts peut-être, gens qui ont du caractère, et puis on ne sait pas pourquoi cette emprise se met en place malgré elle.
Non mais c'est ce qui est hallucinant, je lui dis à la jeune fille, je lui dis, mais vous savez mademoiselle, on va l'interpeller. Quoi qu'il arrive, on va l'interpeller. Et il va aller en prison. Elle était vraiment sous l'emprise. C'est ce qui nous a choqués. Hein. Pourtant, on a l'habitude d'intervenir. Hein,
mais oui, c'est vraiment... ça qui est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Eddy.
Je vous en prie.
À chaque fois que vous nous appelez, les témoignages que vous apportez à cette antenne, parce que vous êtes un policier de terrain, sont vraiment très, très intéressants. Je ne peux que vous encourager à nous appeler, parce que c'est vraiment très intéressant à chaque fois ce que vous dites.
On est au terrain, on est vraiment. Qui mieux que nous peuvent exprimer, verbaliser ce qui se passe. Je vous le dis, on est des êtres humains. Hein.
Merci Eddy. Vraiment, merci beaucoup. Une petite surprise après la pause à 13h19, parce que tout à l'heure, Emmanuel Macron était avec Brigitte Macron à Clairefontaine. Ils sont en train de déjeuner. Et puis...
Un guest dans l'émission.
Un guest de la
quelqu'un
team.
Quelqu'un qui n'est jamais venu dans les auditeurs ont la parole.
Mais
incroyable.
Et est entré dans notre bureau. Donc, dès que quelqu'un entre, nous, on l'invite. Forcément, c'est monsieur Castaldi, Giovanni de
son
prénom.
Ah, vous vendez la mèche direct.
Je vends la mèche. La mèche de cheveux de Castaldi, elle vaut cher. Vous savez, parce que c'est un garçon, les filles se l'arrachent. Mais bon, c'est un garçon sérieux et amoureux. Donc, il n'y a pas de souci. 13h20, à tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc juste un petit mot de football, parce que c'est la team RTL qui va se mettre en place. Le championnat d'Europe commence demain,
Monsieur
Castaldi, avec toute la team, Philippe Sanfour, Georges Rault,
Philippe
Christian
et Nicolas
Olivier.
Philippe et Nicolas qui seront sur site pour suivre les Bleus au plus près. On refait le match avec Christian Olivier et Eric Silvestro. Et moi et d'autres invités, Baptiste Durieux, Quentin Vasselin.
Et tous les soirs, rendez-vous sur RTL à partir de quelle heure ?
20h le week-end, 20h-23h l'horaire traditionnel, et en semaine 20h45 jusqu'à 23h.
Bon bah écoutez, ça va être pareil. Qu'est-ce que vous allez faire vous ?
Qu'est-ce que je vais faire, c'est-à-dire ?
Vous allez commenter ?
Non, moi je suis avec Eric, je suis là pour commenter l'actualité, donner les dernières infos avec Nicolas.
Je vous ai écouté avec Eric Silvestro, c'était mercredi. J'ai vu également qu'il y a un grand chapitre médical désormais quand on vous écoute. Parce que
c'était la blessure de Karim Benzema.
Manifestement, quand tu les écoutes, si tu veux, c'est les spécialistes du strap, la rotule, et voilà, est-ce qu'il est bien strappé ? Mais maintenant, vous avez tous fait 2 années de médecine pour commenter du foot.
C'est obligatoire, c'est obligatoire. Ben, et tout va bien pour Karim Benzema, il faut rassurer les auditeurs.
Bien, mais ayant été un moment journaliste de foot, c'est vrai que cette spécialisation...
vous avez même été directeur sportif, si je ne m'abuse.
Oh, avec le succès que vous connaissez. Mais en revanche, c'est vrai que cet aspect médical existait moins dans notre profession.
Eric Silvestro est très pointu. Et d'ailleurs, il avait prédit ce qui s'est passé avec Benzema. Rien de grave, une béquille.
Ça ne m'a pas échappé parce que voyez-vous, comme je vous écoute toujours les soirs de matchs de football, donc je vous écoute et j'ai vu qu'effectivement, il fallait avoir fait la première année de médecine pour commenter le foot et que vous saviez pratiquement tout de la physiologie des joueurs de football.
C'est important, Pascal.
Mais bien
c'est
sûr.
Important.
Merci, cher Giovanni.
Pascal.
Merci d'être
passé. Vous disiez qu'il avait un succès fou. En effet, il y a des filles qui sont venues en régie directement.
Ah non, mais
incroyable.
Mais Giovanni Castaldi, bon, il y a des gens qui. Voilà, c'est une chance. Ils sont nés avec un physique comme cela. Bon, bah, faut pas être jaloux.
Qu'ils viennent plus souvent, du coup.
Il faut être généreux. Voilà, tout le monde ne peut pas être. Mais lui, il l'est, en revanche. Donc, il a
cette
chance.
C'est gentil, Pascal, je reviendrai.
Il est beau et gentil, donc c'est bien. 13h25.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Pascal, avec un E. Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et à l'équipe.
Et qui voulait évoquer les féminicides, et c'est un sujet infiniment plus sérieux que celui du football et de la légèreté que nous avions il y a un instant. Et on rappelle les nouvelles mesures des violences pour lutter contre les violences conjugales, élargissement du recours au bracelet anti-rapprochement, mise en place d'un fichier des auteurs de violences conjugales notamment, pas d'aménagement de peine, sans expertise psychologique et 3000 téléphones grand danger d'ici 2022. Qu'est-ce que vous en penser.
Bah, écoutez, moi je suis d'accord sur beaucoup de choses, le bracelet, tout ce qui est téléphone, oui, si ça peut être développé, c'est pas mal. Tout ce qui est pharmacie aussi, où les personnes pouvaient aller en discrétion, quoi, ça permettait aussi de prévenir qu'il y avait danger. Et moi j'étais aide-soignante en neurotraumato, donc au niveau de la tête, au niveau de l'hôpital de Tours. Et nous, on recevait fréquemment des femmes, justement, qui avaient des fractures d'orbite, des fractures qui étaient... Donc, on leur donnait un bain systématique et on se mettait toutes seules avec elles et on discutait. Et on leur disait, mais faites quelque chose, des numéros d'association, partez. C'était, je vais partir. Et 15 jours après, on les revoyait. Je pense que l'amour est trop fort et il y a une majorité...
Vous dites l'amour...
Pas tout ça.
Vous voyez ce que ce mot amour me gêne toujours.
Oui. Ben moi aussi, il me gêne parce que je l'acceptais pas, parce que c'est de l'amour sans être de l'amour.
Oui, c'est de l'emprise.
Voilà, tout à fait. c'est de l'emprise.
Ça peut être de l'habitude, ça peut être de la peur.
Mais on leur donnait des numéros pour être hébergés avec leurs enfants éventuels s'ils en avaient. On leur donnait, mais on les revoyait régulièrement. On leur disait, mais vous êtes revenus, vous êtes restés avec. Parce qu'on essayait de mettre la même personne qui s'occupait d'elle pour discuter avec un petit peu plus, quoi. Qu'elle ait confiance.
Et puis parfois, ce qui est terrible, en tout cas, il y a des violences conjugales sans coup porté.
Oui, oui.
Et après, celle-là, pour les combattre, c'est-à-dire que.
C'est psychologique.
Ben voilà, et elles peuvent être d'une grande perversité. On peut tomber sur des êtres très pervers, hélas, qui peuvent te détruire sans jamais porter un coup.
Mais tout à fait. Et puis le truc psychologique, pour moi, moi j'ai eu mon mari qui a eu des problèmes, j'étais pas bien dans sa tête, il s'est séparé de son ex-femme, on s'est remis ensemble, enfin bon, compliqué. Et il a fait une dépression, il a été interné, il a joué avec les psychiatres.
C'est-à-dire jouer.
C'est-à-dire, il a dit clairement, oui, non, mais je vais bien, ça y est, je suis bien dans ma tête. Il est sorti. Mais il m'a dit, j'aurais menti, quoi. Je suis pas encore bien. Il y a des gens qui savent jouer. Je veux dire entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait. Il y a des.
C'est pour ça que le truc psychiatrique, j'y crois pas.
Ben merci Pascal, là encore.
Le bracelet et puis tout ce qui est protection, comme le policier qui est passé avant moi, je trouve ça très bien, quoi. Que ce soit pris en charge maintenant automatiquement et qu'on envoie la police directement. Moi, je sais que j'ai eu un cas une fois où une femme se faisait attaquer. On m'a dit, j'ai pas d'équipe à envoyer.
Ouais.
C'est grave.
Bien sûr, c'est grave. Merci beaucoup, Pascal, de ce témoignage. On va poursuivre avec Olivier. Ce sera peut-être un des derniers témoignages sur les féminicides. Il est artisan à Auxerre. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent. Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Damien T, l'auteur de la gifle infligée à Emmanuel Macron, est jugé en comparution immédiate.
Merci à vous. Salut à Val Macroni.
Une comparution deux jours après cet acte de violence qui a suscité l'indignation générale. L'homme âgé de 28 ans risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. L'audience est imminente. Qu'attendez-vous de la justice? Je ne m'inquiète pas, écrit Marc sur nos réseaux sociaux. Elle sait être réactive quand elle veut. Alain espère une condamnation exemplaire pour arrêter ce type de comportement violent et irresponsable. Et vous, qu'en pensez-vous? 3210, 3210.
Olivier, dernier témoignage sur ce sujet.
Oui, bonjour.
Des féminicides.
Oui, bonjour Pascal.
Quel est votre sentiment sur les mesures annoncées?
Moi j'ai l'impression que ça peut aller dans le bon sens, mais c'est pas forcément encore assez. Enfin, je veux dire, ça manque un petit peu de volonté de traiter le sujet, parce que globalement, on est face à des gens, c'est un peu des bourreaux. Hein. Ils ont l'emprise sur leurs victimes, et puis on s'aperçoit que il y a pas mal de points qui ont été évoqués, mais à partir du moment où il y a le premier coup donné. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une main courante ou une plainte de déposer? C'est ça, parce qu'on parle de bracelet électronique, de téléphone. Mais je pense qu'il faudrait quand même agir dès qu'il y a le premier coup donné, parce qu'après, on va sur de la récidive, on va sur des choses qui sont assez graves. Et je pense que ces gens-là, eh bien, comme ils ont l'emprise sur leurs victimes, globalement, comme ça a été dit, non, je ne vais pas le quitter parce que quelque part, je l'aime, entre guillemets, c'est pas de l'amour, hein, mais bon, alors soit il y a une dépendance financière, il y a peut-être une dépendance par les enfants, il y a souvent les femmes qui n'ont pas possibilité de partir parce que, vous voyez, dépendance donc financière qui n'est pas là, et puis voilà, donc après, de fil en aiguille, ça monte crescendo, donc je pense que ces gens-là, il faut absolument les mettre hors d'état de nuire dès la première fois qu'il y a une main levée, tout simplement. Voilà.
Oui, mais hors état de nuire, ça veut dire quoi? Par définition, vous n'allez pas les mettre en prison. Oui, bien sûr.
Souvent, on voit bien que y a une petite peine de prison. Donc oui, j'ai compris. On ressort, on réintègre le foyer. On attend peut-être 15 jours, 3 semaines et ça repart les premiers coups. Et puis ça remonte crescendo. Et puis peut-être deuxième condamnation. Et puis on recommence. Donc il faut peut-être les changer de région. Je sais pas. Il faut peut-être comme ça a été dit aussi en début. Je sais plus. C'était une avocate, je crois. Les réinsérer entre guillemets, les rééduquer. J'aime pas trop cette expression-là, mais oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là à faire. Parce que, à mon avis, je pense que ça vient aussi peut-être d'un manque d'éducation, peut-être qu'il y a problème aussi peut-être d'alcool, peut-être de drogue, peut-être il y a tellement de points qui rentrent en ligne de compte, donc c'est pas évident. Mais moi je pense que l'histoire du bracelet et des téléphones, quand vous avez la pression de quelqu'un, déjà on sait très bien qu'un bracelet c'est pas ça qui va vous interdire de. D'ailleurs ça a été malheureusement, on a pu le voir là par rapport à un des faits médicaux qui s'est passé dernièrement. Je crois qu'une personne avait un bracelet, donc j'ai pas bien saisi le bénéfice du bracelet. Hein. Ça a servi à rien. Le téléphone, quand vous avez quelqu'un qui est sous pression, après, c'est pareil. Le temps que les services se déplacent, il y a X temps qui peut se passer, et puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc, je veux bien, mais j'ai du mal à y croire, tout simplement.
Ben merci beaucoup. Merci, voilà. Olivier. On referme le chapitre féminicide, et j'ai merci. Peur évidemment qu'on ne le rouvre très prochainement, et que, hélas, ce soit un thème qui soit récurrent dans notre actualité.
RTL.
Roland Garros 2021.
Alors Roland Garros, parce que pas de rendez-vous, donc vous mettez un jingle, Greg Caradoni, pour dire que précisément on ne va pas à Roland Garros.
Exactement, simplement pour indiquer à nos auditeurs qu'on retrouvera Isabelle Langer à partir de 15h sur l'antenne pour le début des matchs à 15h30.
Oui, parce que les matchs aujourd'hui commencent à 15h30.
Absolument.
Donc malgré ça, on dit qu'on n'y va pas.
Et oui, c'est important de dire ce qui va se passer sur l'antenne,
bien
de teaser un petit peu.
Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Nous marquons une pause peut-être ?
Avec plaisir. J'aurais bien aimé que vous prononciez les noms des joueuses russes qui joueront cet après-midi, mais vous ne les avez pas sous les yeux malheureusement.
Non, je ne les ai pas sous les yeux. Si vous le souhaitez, je peux.
On essaiera tout à l'heure.
Produire cet exercice.
Après, on peut parler de Roland Garros avec les auditeurs si vous le souhaitez, bien sûr.
Si si vous voulez, cher ami, il n'y a pas de souci. À tout de suite.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec François pour évoquer l'auteur présumé de la gifle infligée au président de la République, Emmanuel Damien T., qui sera donc jugé ce jeudi en comparution immédiate, deux jours après les faits qui ont suscité une réprobation unanime du monde politique. Et la question qu'on se pose, c'est quelle peine doit-il encourir? Non pas encourir, mais quelle peine doit-il recevoir ? François.
Oui, bonjour Pascal. Mais écoutez, je pense que la justice doit passer et on veut rappeler les principes de notre démocratie, c'est séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif. Imaginons un instant, et imaginez-vous, journaliste, un instant, que le président insiste pour que la peine soit exemplaire. Mais vous seriez les premiers à hurler en disant « Mais attendez, de quoi se mêle le président ? Il n'a pas à se mêler de ce que fait la justice. » Et vous auriez raison. Donc la justice doit juger à l'aune de ce qui s'est passé, de la gravité des faits qui sont exceptionnellement graves. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Mais il y a la proportionnalité des peines, il y a le travail qui est fait par les magistrats que l'on doit respecter. Et il faut faire confiance à la justice dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, à un moment.
Non, mais il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Eh bien, s'il prend 3 ans et 45 000, c'est que le juge en aura décidé et qu'il aura pris le plafond de sa peine parce que le juge aura considéré qu'il aura fait que la faute qu'il a commise est suffisamment gravissime pour qu'il prenne le plafond de sa peine.
François, là, vous raisonnez, vous avez raison en théorie, mais il y a deux manières de voir cela. Soit on considère que c'est un acte qui est banal. C'est-à-dire qui aurait pu être fait à n'importe qui et que la peine est en fonction de si elle, la claque avait été donnée, j'ai envie de dire, à n'importe qui. Soit on considère qu'il y a de l'exemplarité, que parce que c'est une claque qui est adressée au président de la République, la peine doit être exemplaire parce qu'il y a l'opinion publique qui réclame peut-être une autorité, parce que. Voilà.
Mais l'exemplarité s'applique à toute personne détenteur de l'autorité publique. Ça veut dire que quand on s'en prend un policier, quand on s'en prend un pompier, ne serait-ce que quand on s'en prend le dimanche après-midi un arbitre de foot sur un terrain, il y a une exemplarité. Et donc la peine doit être exemplaire.
Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Est-ce qu'on va condamner, qu'est-ce que vous diriez, vous, journaliste, si on condamnait ce type-là à 20 ans de prison et 350 000 euros d'amende?
C'est pas possible, puisqu'il risque 3 ans de prison. Il risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. On ne peut pas le condamner à 20 ans.
Et voilà, vous avez répondu à ma question. La justice est souveraine. Alors, ce qui sera intéressant de regarder, ce sera les attendus. Les attendus du jugement.
Non, c'est la peine, si vous me permettez, François.
Oui, mais la peine va dire, on va dire 3 ans et 45 000. On va aller au taquet de la peine. Mais qu'est-ce que va dire le juge ? Le juge va se prononcer, il va sortir sa peine d'attendu, de commentaire.
Oui, c'est ça, François, ce que je veux vous dire, c'est que si c'est pas le président de la République qui est giflé, L'homme ne va sans doute pas en prison parce que la claque, on ne sait même pas si elle touche précisément le visage du président, etc. Bon, ça c'est le cas. Oui, c'est le cas classique. Mais je pense que personne ne va en prison pour un geste comme celui-là en France. Personne. Mais si vous me laissez.
C'est pour ça qu'on parle de proportionnalité de la peine.
Non. Moi, je ne vois pas les choses de la même manière que vous. Là, ce qui est différent, c'est que l'opinion publique attend forcément un jugement, que la justice, elle n'est pas en dehors de l'opinion publique, et qu'elle va scruter, attendre, parce qu'elle va y voir un signe donné à toute une société. C'est ça que je veux vous dire.
Oui, mais quel que soit le signe, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'opinion publique attend le maximum.
Mais le maximum, rôle, je ne sais pas.
Imaginons que demain le juge se dise, écoutez, on va mettre 6 mois et 5000 euros d'amende. Personne ne sera content.
Mais s'il passe par la casque prison, je pense que ça sera symbolique. J'ai envie de vous dire que ce soit 1 mois ou 2 mois de prison, si la case prison n'existe pas dans le jugement, il se peut que les gens soient surpris, que ce soit un début polémique.
Mais c'est bien sûr, et c'est en cela que notre justice est importante et que la justice doit passer, c'est ce que je vous disais. Le juge prendra, en fonction des éléments qui sont donnés et qui jugera la gravité de ce qui s'est passé, ce qui est exceptionnellement grave, sauf que dans son échelle de jugement et dans son échelle de condamnation, lui, il ne peut pas aller au-delà de 3 ans et 45 000.
Oui, mais il peut aller moins, surtout.
Il pourrait aller moins.
Je ne sais pas s'il ira à la casse prison, par exemple.
Ah, mais le risque, c'est s'il met juste un rappel à la loi, je suis d'accord avec vous.
Ça, je pense qu'il n'y aura pas juste un rappel à la loi. Mais vous savez qu'en plus, techniquement, là, il faut vérifier ce que je vous dis, mais pour qu'il passe par la casse prison, a priori, il faut que la peine soit supérieure à 1 an.
Bien sûr.
Autrement, tu ne vas pas en prison en France.
Bien sûr.
C'est pour ça que ça va être très intéressant de scruter ce jugement. Merci en tout cas, François.
Avec plaisir.
Aurore est là également, Aurore qui est étudiante et qu'on écoutera peut-être après une nouvelle pause. Aurore.
Et bonjour, Monsieur Pro.
Aurore. À tout de suite, Aurore.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro,
Laurent Tessier.
Nous parlerons tennis à 14h avec cette fronde hier soir au tournoi de Roland-Garros. Le public a été invité à quitter le court Philippe Chatrier à 22h30 alors que Novak Djokovic menait 2-7-1 dans son quart de finale. Une demande pour respecter le couvre-feu.
Mesdames et messieurs, le couvre-feu est prévu à 23h ce soir.
Des spectateurs ont crié « on va rester, on a payé », ce sont les mots scandés dans les tribunes, le jeu a été interrompu, les joueurs ont dû quitter le court, à la sortie, la colère était toujours là.
On était en plein match, c'était la folie, on nous éjecte du stade, c'est scandaleux. On aurait pu commencer le match à 19h, ça aurait été une bonne solution.
C'est pour l'anniversaire de mon époux, on est là pour se faire plaisir, on vient de Marseille, et en fait, on nous dit depuis 22h15, prenez vos dispositions, il y a le couvre-feu. Hier, il y a eu un match de foot, il y a une tolérance, voilà, et aujourd'hui voilà, il n'y a pas de tolérance, pourquoi ?
Alors aurait-on pu accorder une dérogation à ces spectateurs ? C'est du bon sens pour Sylvain sur la page Facebook RTL, les 8 heures ont la parole, il fallait laisser regarder la fin du match. Pour Thierry, les droits doivent être identiques, football, tennis, tout le monde doit être mis à la même enseigne. Quelle gestion calamiteuse des directives, mais l'heure c'est l'heure, l'enserver est le plus simple, écrit Bernard, aurait été d'avancer l'horaire de la rencontre et la démarrer à 19h par exemple.
Non mais ce qui est vrai, c'est que c'est incompréhensible que le mercredi des spectateurs puissent assister à un match de l'équipe de France de football après 23h et que le jeudi, des spectateurs à Roland-Garros doivent quitter le stade avant 23h.
Incohérence ?
C'est incohérent, me semble-t-il.
Surtout qu'au moment de France-Bulgarie, le couvre-feu était à 21h.
Voilà, c'est mardi et mercredi. Mmh. Jeudi, mais c'est mardi et mercredi. Vous voulez réagir, Greg Caradoni ?
Non, je suis d'accord avec vous. Je trouve que c'est incohérent. Après, quand on est sur le stade de Roland-Garros,
mais c'est incohérent,
on n'a pas appris à 22h qu'il y avait un couvre-feu à 23h.
Oui, mais bon. Vent de fronde, en tout cas, à Auteuil et soulèvement populaire du Trocadéro jusqu'à la Muette. Aurore est avec nous, donc, qui fait Sciences Po à Paris et qui nous appelle régulièrement également. Et je voulais votre sentiment sur ce que doit subir comme traitement le gifleur du président de la République, selon vous.
Alors, je pense que on devrait... Il y a un véritable symbole, déjà, de le faire passer en comparution immédiate. Quand on voit par rapport à d'autres affaires, etc., quand on voit combien de temps la justice peut prendre pour, entre guillemets, des, des choses plus graves, on est d'accord, on a pu le voir avec des féminicides, etc. Mais je pense qu'il faut faire un exemple aussi dans le sens où on a atteint quand même un symbole. On ne peut pas non plus laisser passer ça. Et l'opinion publique, de toute façon, le réclame. Après, effectivement, il y a... Quelle peine ! Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Et de toute façon, cette condamnation sera un véritable symbole, puisque c'est un peu sans précédent, il me semble.
Ah, ça sera évidemment sans précédent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire d'un côté que l'autorité est bafouée, que l'éducation en France est saccagée, que les institutions sont attaquées, la police, la justice, etc. Et puis en même temps, lorsqu'on a un cas devant nous qui illustre tout cela, et notamment le rapport au respect, le rapport à l'autorité, ça me paraît difficile de dire à ce jeune homme de 28 ans, écoutez, vous allez avoir un rappel à la loi ou vous allez avoir une peine d'amende qui sera symbolique ou une peine de prison simplement avec sursis. Ça, c'est un avis personnel que je vous donne là. Il me semble que sur un geste comme celui-là, aussi marquant, sans doute faut-il une peine qui soit marquante également.
Je le pense aussi, et de toute façon, la justice est très sensible à l'opinion publique. Certes, l'auditeur précédemment parlait de la séparation des pouvoirs, mais on sait très bien que l'opinion publique est voilà, un thermomètre de tout ce qui se passe en France, que ce soit au niveau politique, social, etc. Et que, évidemment, la justice en prendra compte. Donc je pense sincèrement qu'il y aura une peine de prison.
Alors la justice est évidemment indépendante en France, mais les magistrats sont aussi des citoyens français et forcément ils ne sont pas hermétiques à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils écoutent ici ou là. Et forcément, ils vont aussi peut-être réagir avec ces paramètres-là. Merci Aurore de votre témoignage. Merci beaucoup Richard pour ce même sujet qui habite Grenoble. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Mais effectivement, moi je suis pas du tout de la vie d'Aurore. Parce que demain, moi je prends une claque, il n'y aura pas une sanction exemplaire comme il est envisagé. Seulement, il faut voir aussi que peut-être qu'Emmanuel Macron a énervé des gens. Je me rappelle de la fête de la musique où il a invité des jeunes qui étaient torse nus, il y avait des photos à l'Élysée. Après, ils ont changé les assiettes, il fait que des bêtises et il est people. Il est people, c'est pas un président. Et là, effectivement, il était en campagne hier ou avant-hier, il n'est pas allé en tant que président. Donc voilà, il faut qu'il réfléchisse aussi un petit peu, quoi.
C'est intéressant, évidemment, votre avis, Richard, mais ce n'est pas le problème, si vous me permettez, d'Emmanuel Macron. Pour moi, c'est le problème de ce qu'il représente. C'est la présidence de la République qu'on a giflé. C'est la France qu'on a giflé. Ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est pour ça que c'est un sujet qui dépasse même Emmanuel Macron. J'ai envie de dire, quelle que soit la personnalité du président de la République, est-ce que nous devons tous sanctionner quelqu'un qui s'attaque à quelqu'un qui a été élu démocratiquement? C'est ça le sujet, Richard. En tout cas, l'un des sujets possibles.
Oui, eh ben, on lui met une peine de quelques mois, mais il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Il n'avait pas allé non plus au contact des gens. Il a un service de sécurité. S'il écoute personne et il joue en solo, voilà.
Vous ne partagez pas manifestement la réaction des Français parce que suite à une gifle, il y a eu un sondage qui a été produit par le CSA. 60% des gens sont indignés, 29% sont indifférents et 11% sont satisfaits de cette gifle. On fait même des sondages sur les gifles, vous voyez. Mais 60% des gens quand même ont été indignés, ce qui n'est pas votre cas peut-être, Richard.
Non, je ne suis pas indigné.
Vous n'êtes pas bien indigné sûr, par ça
Non, bien sûr. Bon, le président a reçu une claque, mais aussi, il faut qu'il...
Mais à quel niveau vous êtes indigné, si vous me permettez? Alors, si le président de la République qui reçoit une claque, vous n'êtes pas indigné, à quel niveau vous êtes indigné?
Mais il n'y a pas de niveau, monsieur. C'est juste qu'il y a des choses à respecter, c'est tout.
C'est pourquoi je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'on doit respecter?
Ah bah non, mais chaque cas est unique, en fait.
J'entends bien, mais ouais. je n'arrive pas à percevoir ou à savoir exactement ce que vous pensez.
Ah ben non, ben je pense qu'il faut que cette personne soit condamnée avec du sursis ou quelques mois, mais qu'on n'aille pas à des années de prison.
Non, mais c'est pas des années ou des années, pour tout vous dire.
Ah
c'est
ben si, on parle de 7 ans. Hein.
Non, c'est 3 ans.
3 et 7 ans.
Non, c'est 3 ans de prison. Ah. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ça, il ne peut pas aller au-delà, c'est la loi. Après, ouais. Moi, je mets le curseur sur la peine symbolique de prison. Passer par la case prison, qui passe un mois, deux mois ou trois mois, j'ai envie de dire, c'est pour moi la même chose. Mais c'est la prison ferme qui sera le marqueur, pour moi, de cette décision. Avec un problème, un problème effectivement technique, c'est qu'en dessous d'un an, a priori, tu ne fais pas de prison ferme. Alors, est-ce que tu peux avoir une peine de trois mois de prison ou de deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt demandé à l'audience? C'est possible également.
Ah ben, je ne sais pas.
Merci en tout cas, Richard.
Merci,
vous êtes artisan à Grenoble. Il est 13h56, avant 14h, on a encore le temps.
Oui, il nous reste 1 minute 30.
Eh bien, Cédric, peut-être voulait-il parler de Roland-Garros, en tout cas commencer, parce qu'on en parlera peut-être après le flash. Vous étiez dans les tribunes hier ?
Non, je n'étais pas dans les tribunes. Alors moi, j'ai la chance d'être abonné à, on va dire, Amazon Prime, bon, pas le citer, donc je peux voir les matchs comme je veux, tranquille à la maison. Mais je trouve que c'est scandaleux, au fait, si vous voulez, qu'on demande aux spectateurs de sortir à cause du couvre-feu. On donne une dérogation pour le foot. Le sport, ça doit être la même chose pour tout le monde. Le sport, c'est l'égalité. L'égalité pour tous. Et je trouve que c'est pas sportif de faire sortir des gens, surtout qu'une place à Roland-Garros, ça coûte quand même un certain prix. Donc, c'est pas sportif de demander aux gens de partir avant la fin d'un match, quoi. Je veux dire, vous imaginez le même truc sur une finale, non, ou face à, je sais pas, un Djokovic face à Nadal, comme demain, je crois, c'est ça, demain, il y a Djokovic-Nadal. Donc, je vois pas comment on peut faire. Moi, franchement, la rébellion, je la comprends complètement et j'aurais fait exactement pareil. Vraiment.
Je crois que Greg Caradoni pourrait vous répondre à cette interrogation,
non,
en tout cas à cette position, parce qu'il il le disait à l'instant.
En fait, moi, ce que je crois, c'est que je comprends qu'il y ait, je trouve pas normal qu'il y ait une différence entre le foot et le tennis. Je suis vraiment d'accord avec vous, Cédric. En revanche, les spectateurs qui sont allés assister au match savaient parfaitement, en achetant leur place et en allant assister au match, eh bien qu'à 23h, il faudrait quitter Roland-Garros.
Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais là, à ce niveau-là, on est d'accord, ils le savent.
C'était pas une surprise, quoi.
C'est pas une surprise, je suis bien d'accord. Mais on peut peut-être faire une exception ou une dérogation pour quarte finale, demi-finale. On peut faire quand même une exception.
Bien sûr, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ou mettre les matchs plus tôt, comme le disaient Laurent et Pascal tout à l'heure.
Eh ben exactement, ça aussi c'est une solution, mais voilà, on a quand même fait une dérogation pour 5000 personnes, il n'y a pas 5000 personnes au match de Roland-Garros, je veux dire, on peut faire une exception. Voilà.
Vous voyez Greg, il y a quand même un avantage, c'est que vous pouvez faire mon job et répondre à l'auditeur, et moi je suis incapable de faire le vôtre, c'est ça quand même la différence.
Mais non,
parce que les auditeurs, il faut bien se rendre compte que la console qu'a aujourd'hui devant lui Greg Caradoni pour réaliser cette émission, c'est combien de boutons dans votre console, sérieusement?
Je sais pas, il doit y en avoir une trentaine peut-être.
Oui, il y en a 200. Je veux dire, c'est impossible d'être réalisateur à la radio aujourd'hui. Faut tout maîtriser, c'est très très complexe. La pause.
Vous savez quelle est l'autre difficulté de mon métier?
M'écouter.
C'est d'essayer de tenir le timing et là on est déjà en retard.
Ah bon, je crois que c'est tout.
Mais comme vous me complimentiez, c'était pas grave pour une fois.
Olivier Bois, il y a dans une seconde.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h01. Le flash avec Olivier Bois.
Emmanuel Macron a remercié Kylian Mbappé ce midi pour s'être fait vacciner et l'avoir fait savoir sur les réseaux sociaux. Le président est en visite à Clairefontaine pour encourager les joueurs à la veille du début de l'Euro. Demain à Rome, Italie-Turquie. La France, elle commence la compétition mardi face à l'Allemagne, à Munich. Celui qui a giflé le président de la République, lui, est jugé cet après-midi en comparution immédiate. Au cours de sa garde à vue, il a déclaré avoir agi sans préméditation, sans réfléchir, pour exprimer, dit-il, un mécontentement. Il risque sur le papier au maximum pour cette gifle 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Un ancien militaire à la retraite a été arrêté, soupçonné d'être impliqué lui aussi dans l'enlèvement de la petite Mia par un commando début avril qui était allé kidnapper chez les grands-parents à la demande de la mère qui n'avait plus la garde. Le militaire arrêté est un proche de Rémi Daillet, arrêté lui en Malaisie, qui est une figure de mouvement complotiste. 28 millions de Français sont vaccinés à ce jour, mais l'OMS douche un peu l'optimisme ambiant aujourd'hui en rappelant qu'en Europe, 17% 10% seulement étaient vaccinés de doses, ce qui est, selon l'organisation, loin d'être suffisant pour éviter une résurgence.
Roland-Garros 2021,
c'est sur RTL.
Vous êtes sûr que vous voulez aller à Roland-Garros alors que les matchs n'ont pas commencé, Olivier Bois ?
Mais je crois qu'il n'y a personne à Roland-Garros.
Ah non, mais il n'y a personne parce que vous savez pourquoi ?
Mais du coup, je ne sais pas du tout pourquoi Grégory a lancé ce
parce que les matchs commencent à 15h30.
Lui que vous encensiez vient de faire une erreur majeure.
Mais pas du tout, parce qu'au contraire, il annonce 15h30, voyez-vous. Voilà. Et comme c'est des matchs importants de femmes dont vous nous allez rappeler peut-être.
Si vous me laissez deux minutes, parce que deux têtes, je vais pas être capable. Essayez d'un petit peu de meubler l'antenne le temps que je retrouve les noms de ces joueuses.
Ah, je pensais que vous les aviez avec vous parce que tout à l'heure.
Zidanecek.
Bien sûr.
Contre Pavlyuchenkova.
Exactement.
Et le deuxième match est Sakkari, la grecque qui a battu hier Swiatek, face à. Et il va me manquer à la quatrième.
Krejcikova.
J'espère que je ne me suis pas trompé sur les noms parce qu'Isabelle Langer, sinon, va me le reprocher. Elle aura raison d'ailleurs.
Merci beaucoup, Olivier Bois.
Et on retrouve Isabelle à 15h, faut le dire quand même.
Bien sûr.
Pavlyuchenkova face à Zidanecek.
Et même on la retrouvera à 15h30, puisque comme vous l'avez compris, les matchs commencent à 15h30. Il est 14h03.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
C'est un prénom qui est à la mode. Et Kylian est avec nous. Kylian!
Bonjour Pascal Praud.
Vous avez 20 ans d'ailleurs, Kylian. J'imagine que vous êtes fier de porter ce prénom, Kylian?
Bah, totalement. C'est un des premiers qui arrive à avoir à porter le nom. j'en suis très fier. Oui, c'est cool.
Mais c'est vrai d'ailleurs, parce que c'est devenu un prénom un peu emblématique. Alors, vous, c'est avec un I ou avec un Y?
C'est avec un I et deux L. Pour voler, c'est mieux, j'ai deux L. Voilà.
D'accord, exactement. Bon, Kylian, est-ce que vous étiez hier à Roland-Garros?
Alors, j'y étais pas personnellement, mais j'étais devant mon poste.
Oui.
Voilà. Et je sais pas vous, mais moi, personnellement, j'étais dégoûté. Hein. J'étais dégoûté de voir le public partir. Ils avaient mis l'ambiance comme pas possible, et puis voilà, dégoûté, quoi.
Mais, comment dire, dur Alex, c'est de l'ex, comme dit l'autre, c'était le couvre-feu. Moi, je suis d'accord avec vous. D'abord, je trouve ça ridicule, cette affaire de couvre-feu. On est à moins de 5000 personnes de cas aujourd'hui en France. Donc, je vois pas tellement l'avantage, ou plus exactement, je vois pas tellement l'intérêt de garder un couvre-feu en France. Il y a un taux d'incidence qui est aujourd'hui très bas. L'épidémie, elle est quasiment stoppée pour des raisons qui sont d'ailleurs très très dures à expliquer. Il y a une part de saisonnalité manifestement dans cette épidémie. Mais à 23h, on demande à tout le monde de rentrer. Bon, bah, c'est la loi. Qu'est-ce que les jeunes disent ? On ne peut pas se mettre en dehors de la loi. On peut la contester comme moi, mais l'appliquer en même temps.
Oui, après, moi, je suis pas épidémiologiste, mais ce que je peux dire en tant que fan de sport, c'est que quand j'allume ma télé, que je regarde du foot et que je vois qu'ils autorisent 5000 supporters au Stade de France, en plus qu'ils sont tous jonchés au même endroit, avec des dérogations au niveau du couvre-feu. Par contre, le tennis, rien du tout. Alors, voilà, je pense que c'est aussi un problème de représentation du tennis en France. L'image qu'on a du tennis, aujourd'hui, si on veut pas laisser les supporters rester après 23h, je pense que ça pose quand même de gros soucis. Moi, je sais pas si je paye mon billet, j'en sais rien, je sais pas combien c'était pour l'écart, hein, mais imaginons 100, 150 euros, j'aurais les boules quoi, de devoir quitter au bout de 2-7.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que disait Greg Caranoni à juste titre. Les gens qui sont entrés à Roland-Garros connaissaient la règle du jeu. Ils savaient qu'ils devaient partir à 23h, avant 23h.
Oui, totalement. Mais je pense que là où c'est un peu minable de la part des organisateurs, c'est que qu'est-ce que ça leur aurait coûté de laisser, j'en sais rien, moi, de laisser l'initiative.
Mais attendez, vous êtes en dehors de la loi. Si vous êtes organisateur, si par exemple vous avez un accident à 23h05 à l'intérieur des tribunes d'un supporter qui, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, il a une crise cardiaque, par exemple. Mais la famille de cet homme se retournera vers l'organisateur, en l'occurrence la Fédération Française de Tennis, et dira « Mais monsieur, il n'avait pas à être là à 23h05, peut-être que s'il était sorti avant, il n'aurait pas eu cette crise cardiaque, etc. etc. » Vous êtes obligé, quand vous êtes organisateur, de respecter la loi du pays, parce qu'autrement, c'est injouable.
D'accord, mais alors là, je vous rejoins. Mais alors, sur le fond, là où on peut se poser la question, selon moi, c'est la part de responsabilité des joueurs, notamment, parce que très bien, là, ils pouvaient pas. Bon, sur ce coup-là, c'était impossible. Mais maintenant, on peut se poser la question pour les prochaines fois, parce que bon, j'espère qu'il y aura plus de couvre-feu, mais on peut quand même se poser la question, parce qu'on ne sait pas si.
Ah bah, s'il y aura un couvre-feu jusqu'au bout. Mais a priori, il n'y aura plus de matchs dans cette période-là.
Pour l'année prochaine.
Ouais, oui.
Pour l'année prochaine, on peut se demander aussi quel rôle rôle peuvent avoir les joueurs, parce que quand Djokovic et Berrettini, suite à l'annonce de l'arbitre, vont directement au vestiaire, histoire de dire bon, sortez tous pour qu'on puisse reprendre le match, ça envoie aussi un message.
Mais oui, mais eux, ils exécutent.
Ils exécutent, mais ils ont aussi du pouvoir. Je pense que c'est aux joueurs de prendre les devants.
Mais de dire faut être dans l'illégalité.
Non, de pas dire ça. De pour ce match-là, ça aurait peut-être été compliqué.
Kylian, vous dites aux gens, vous restez. Hein, allez, vous restez jusqu'à 23h15 et c'est moi qui prends la responsabilité, moi, Djokovic.
Non, de voir avec les organisateurs. Je pensais plutôt de mettre la pression sur les organisateurs et sur le gouvernement, mais en l'occurrence sur les organisateurs.
Moi, j'ai peur que ce soit un vœu pieux. J'ai peur que ce soit un vœu pieux parce que dans ces cas-là, les institutions, les règlements sont plus forts que les hommes.
Je sais pas, mais moi je pense à Medvedev qui avait fortement critiqué après sa défaite la Tsitsipas l'organisation de Roland Garros sur les programmations, le fait que lui il joue le match à 21h sans public, le fait aussi qu'il y ait des redevances qui baissent pour les joueurs, alors que bon, Amazon a aussi les programmations du soir, donc ils auraient dû avoir plus d'argent. Je pense que c'est aussi aux joueurs de prendre les devants sur des sujets comme ça, parce que évidemment l'organisation, elle, si elle reçoit des pressions de nulle part, et elle va être conformiste et elle va rester dans ce qui se fait de plus simple.
Merci en tout cas, Kylian, de votre témoignage. On va marquer une nouvelle pause, mais c'est vrai qu'hier c'était révolte porte d'Auteuil. Un vent de fronde a soufflé sur le central et de mémoire de Yorkshire, jamais les maîtres n'avaient pas réussi. Courroucé, Neuilly, Pailly, Neuilly, Auteuil, Passy, c'est pas du gâteau quand il s'agit de défendre passing shot, lift et service gagnant. Je rappelle que Roland-Garros est dans le 16e arrondissement, bien évidemment, mais qu'il n'y a pas qu'un public, parce que je taquine en fait, il n'y a pas qu'un public de favorisé au tennis. Le tennis s'est incroyablement démocratisé ces dernières années, et c'est un public même souvent populaire qui est à Roland-Garros. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Didier est avec nous. Bonjour Didier, toujours pour parler de Roland Garros.
Bonjour.
Bonjour Didier, oui, merci.
Ça va tirer au ridicule. C'est du n'importe quoi. Attendez, bougez pas. Les gens, ils ont payé leur billet. On va quand même pas leur priver d'une chose qu'ils aiment. Et puis, le billet fait foi dehors. Là. Ils veulent pas spécialement contaminer les gens. C'est pas un truc, comment je vais vous dire, volontaire. C'est un truc, le match, il dure plus longtemps. Il dure plus longtemps, tant mieux pour le spectacle. Et puis, tant mieux pour les gens qui ont payé, au moins, non pour leur argent. Mais c'est toujours la bureaucratie qui tire des choses pareilles, qui nous invente des règles. La tolérance, ça fait du bien, la tolérance, un petit peu de temps en temps pour le peuple. Ça, c'est comme si qu'on était à Moscou, c'est comme si qu'on était à Pékin, là. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est idiot, c'est bête, c'est... Ça a tous les délires. Tous les délires.
Je sais pas quoi vous répondre, Didier, parce que... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Non, mais je suis d'accord avec vous, parce qu'après, ils diront oui, mais les autres, ils n'ont pas ça, eux, ils ont ça.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce couvre-feu. Je trouve qu'à un moment, ça va. Bon, mais oui, il est appliqué. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Ben, naturellement, je suis d'accord avec vous dans ce sens.
Donc, on ne va pas rentrer en rébellion. Je trouve qu'on en fait trop sur cette épidémie depuis 2 ans. Voilà, j'ai toujours trouvé ça, j'ai eu la même attitude toujours et tout le temps. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Le masque à l'extérieur, je trouve que ça n'a plus de sens. Tous les épidémiologistes le disent. On l'a tous.
Bon. Tout à fait, tout à fait. Et puis un peu de tolérance, ces gens-là, c'est des gens de bonne foi. C'est des gens qui ne brûlent pas les voitures dans les quartiers, qui ne tirent pas sur les CRS.
Oui, mais ça n'a pas de rapport avec, évidemment.
Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les moutons sont toujours tondus. Vous voyez ce que je vais vous dire?
Ça, c'est bien ça.
C'est toujours ça, c'est-à-dire les gens qui peuvent pas se défendre autrement. Regardez, ça incite les gens des fois à se révolutionner, parce qu'il faut jamais parler dans ce sens-là. C'est jamais bon un pays qui se révolutionne. Mais c'est toujours la même chose. On est toujours tondu, toujours comme il faut. Quand on voit les gens qui arrivent sur vous, les services d'ordre, j'ai rien contre eux, mais ils vont pas vous dire qu'ils vous agressent, mais ils vous font un signe militairien là, c'est-à-dire que il faut toujours payer, il faut toujours faire ça, il faut toujours faire ci. Quand il y a une chose qui est inattendue comme ça, le match a duré plus longtemps, enfin un petit peu de tolérance, ça fait du bien dans un pays, la tolérance.
parce que les gens sont raquettés au maximum, payent des impôts au maximum, les taxes dans tous les sens. Le billet ne devait pas être bon marché. Je ne sais pas la moyenne que c'était le billet à Roland-Garros du match hier, mais il ne devait pas être bon marché. Donc, pour qu'on en ait pour son argent, il faut voir quand même la suite du match, non ? C'est, je ne sais pas quelle est la bonne foi. Est-ce que c'est de l'autre côté ou alors du côté des spectateurs ? Je crois que c'est plutôt la mauvaise foi d'être de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ce n'est pas les spectateurs qui voulaient faire du hors-la-loi. C'est plutôt là, si on enlève la valeur du billet, c'est du hors-la-loi, mais ils ne sont pas tentés, donc ils peuvent le faire. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ça, non, mais ça, c'est un délire, c'est des énervements. La société, un jour, en faisant, vous savez, toujours du plus et du plus et du plus. Hein. Regardez, M. Macron a eu un petit truc. Bon, c'est pas à souhaiter, c'est ridicule, le monsieur qui a fait ça, le jeune qui a fait ça, il est complètement fou. C'est, on ne fait pas ça sur un président de la République. Le président de la République, il représente les Français entièrement. Et les gens ne sont pas d'accord pour des choses comme ça. C'est ridicule. Mais à force, vous savez, d'exciter la société, un jour ou l'autre, ça finira mal. Vous voyez, les gilets jaunes, ils ont été un petit peu excités. On leur a crevé les yeux, on leur a crevé... Vous voyez ce que je vais vous dire ? Ça, c'est un jour ou l'autre, ça, on paiera ça très très cher. Et la bureaucratie, elle paiera très cher. Elles seront obligées de réformer l'État parce qu'il y a trop de lois d'interdiction qui fait qu'un petit peu le régime soviétique. Là, ça va pas. Là, ça va plus du tout. Moi, je suis désolé, je paye mon ticket. J'étais pas à Roland-Garros, hein, mais moi, j'aurais payé mon ticket, j'aurais défendu ma cause en disant, attendez, j'en veux pour mon argent, non? Ah, vous allez chez le pain, chez
mais
le boulanger,
qu'est-ce que vous,
payez
vous
le pain
voulez
entier,
faire? Vous n'allez pas rester tout seul dans votre tribune, Didier?
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais
ah ouais, oui, mais alors, c'est, oui, mais vous dites j'aurais défendu ma cause. Vous faites quoi? Ben, vous faites comme tout le monde. Vous sortez. Vous n'avez pas le choix.
Oui, mais si tout le monde reste assis, il y a assez de CRS pour enlever tout le monde.
Alors, effectivement, ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est si personne ne bouge dans la tribune, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les joueurs ne reviennent pas, donc il y a un moment, ils vont pas passer non plus toute la nuit. Donc je vois pas la solution, sauf celle d'obéir, hélas, ou pas.
Il existe des grèves dans certains moments, les gens font des grèves pour
pas grand-chose. La grève à Roland-Garros, c'est curieux quand même de faire une grève du match.
On l'a eu dans le football. On l'a eu dans le football.
Bon, merci Didier en tout cas, parce que je peux vous rejoindre, effectivement, vous exprimer une parole de bon sens. Il est 14h16. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, monsieur Karadeni, si vous étiez. Si on vous avait demandé de sortir à 22h45?
Bah, j'aurais pris mes jambes et je serais parti.
Ah oui, parce
bah
que
non, mais attendez, quand vous parlez, quand vous dites aux auditeurs de coopérer, quand un agent, un policier par exemple, vous demande de vous arrêter, présenter vos papiers, etc., c'est la même chose.
Mais je partage votre avis, c'est pour ça que je ne peux pas dire autre chose. Alors. J'ai l'impression que Pierre-Louis, au fond, j'ai entendu une sorte de voix discordante, comme si Pierre-Louis avait quelque chose à dire.
Non,
Pierre-Louis. Parce qu'en régie, ça s'agit. Mais...
Bah, en régie, ça s'agit parce que les auditeurs sont nombreux à appeler. Oui. Pierre-Louis rappelle les auditeurs, il s'occupe des réseaux sociaux. Oui. Olivier, Victor viennent aussi en régie pour apporter les fiches.
Bien
évidemment,
sûr.
Ça vit en régie.
Ça vit. Et ben ça va continuer de vivre jusqu'à 14h30.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je rappelle qu'hier, le public de Roland-Garros a été évacué à 22h45. Je rappelle que ce public est testé et qu'il est vacciné. C'est important de le dire. Alors c'est la loi, mais est-ce qu'il il aurait pu y avoir une petite dérogation, c'est la question qu'on se pose. Manifestement, il n'y en a pas eu, alors qu'en football, la dérogation a été permise, puisque mardi soir, les supporters de l'équipe de France ont pu rester dans le Stade de France. Nous étions avec Didier il y a une seconde, on va être avec Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Pascal.
T'es coach sportif.
Oui, je suis coach dans un club à côté d'Arras, à l'étoile sportive de Saint-Laurent-Blondy, voilà. Vous savez ce qui s'est passé hier soir? Ça résume complètement ce qui s'est passé pendant toute cette pandémie, une incohérence complète. Il y a de l'incohérence depuis le début de cette pandémie et on continue dans l'incohérence. Et malheureusement, quelqu'un qui paye un billet, il a le droit d'exiger de pouvoir regarder son match jusqu'à la fin. Enfin, c'est complètement ridicule. Comme disait l'auditeur précédent, à force de mettre des interdits tout le temps, ça va claquer un jour. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Ça fait 15 mois que ça dure. 15 mois où on nous prive de liberté, on nous contrôle. Mais il y en a marre. Il y en a marre. Et je comprends même pas pourquoi les gens ne sont pas restés, d'ailleurs, à Roland-Garros, pour manifester leur mécontentement. Je crois qu'il arrive à un moment donné.
Ils sont restés quelques minutes, mais comme les joueurs s'y restent, les joueurs ne reviennent pas. Donc ça sert, hélas, à rien. C'est même pas efficace. Mais on a entendu, en revanche, des supporters dire on a payé, on a payé.
Bien sûr. Et alors, est-ce qu'ils vont être remboursés, ces gens-là ?
Ah non, ça, je pense qu'ils ne seront pas remboursés, non.
Voilà. Est-ce qu'ils seront autorisés à avoir la suite? Le match a repris, je ne sais même pas, parce que je ne suis pas trop trop le tennis, et je ne sais même pas si le match a repris.
Si le match a repris, Djokovic a gagné.
Oui, bon, bah.
En plus, il restait très peu de temps, c'est ça qui est drôle, c'était dans le quatrième set, il restait quoi, une vingtaine de minutes, je crois.
Ouais, bon, c'est ridicule. Encore une fois, c'est ridicule. Et, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal, mais franchement, bon, je vous suis, hein, je vous suis sur, à la télé, je vous suis ici. Et on partage beaucoup les mêmes avis. Et là, franchement, il arrive à un moment donné. Bien sûr qu'il faut respecter les règles, c'est évident, mais là, c'est franchement, c'est du ridicule, mais on ne peut plus. Et j'allais vous poser la question, je ne savais pas que pour le foot, la dérogation, qu'est-ce qui va se passer pour l'Euro en cas de prolongation?
Ben, il n'y a pas de match en France.
Oui, non, mais pour les pays étrangers, parce que ce qui se passe en France, ça va être pareil en Allemagne.
Alors, je sais pas, là, comme l'euro est dans de nombreux pays, je ne connais pas les couvre-feux de tous les pays d'Europe. Mais vous avez raison, c'est une excellente question, et elle sera sûrement au cœur des matchs des sélections nationales.
Bah oui,
bien
parce
sûr, c'est une bonne question parce que
imaginez-vous,
gens, t'as le droit qu'à une mi-temps. C'est quand t'étais enfant, t'avais le droit qu'à une mi-temps, puis tes parents te couchaient. Ils disaient ah, va te coucher maintenant, il est 11h, t'as école demain.
Et ben
là, c'est le couvre-feu, il était dans les familles, il était à 10h. Ben là, ça sera la même chose. Merci Jean-Paul, merci beaucoup
bientôt,
parce que ça va être l'heure du débrief, on est en retard. Débrief.
Ah, okay.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Et je ne sais pas ce qui se passe à RTL aujourd'hui. La folie Roland-Garros nous a tous envahis. Les demi-finales femmes ont lieu cet après-midi. Et là, pour prononcer le nom d'une joueuse russe, c'est quasiment mission impossible. Tiens un exemple avec notre présentateur des flashs d'information, Olivier Bois.
La russe Pavluchenkova face à la Slovène Zidanšek.
Oui, alors c'est une excellente joueuse.
Excellente joueuse.
Ça ne va pas être facile.
Merci pour votre analyse, cher Pascal. Christelle Robière s'est entraînée toute la matinée dans RTL Midi tout à l'heure.
Dans l'autre rencontre, la russe Pavluchenkova, j'y arrive pas.
Ça a l'air bloqué. Continuons le petit test. Greg Caranoni, notre réalisateur en régie, allez-y.
Pavluchenkova.
Waouh, bravo, Pierre-Louis, notre community manager.
Pavluchenkova.
C'est vous qui choisissez. Bon, on sent quand même que tout le monde est un peu perturbé, surtout notre réalisateur Greg. À tout moment dans l'émission, il peut diffuser le jingle Roland Garros.
RTL.
Roland Garros 2021.
Alors Roland Garros, parce que pas de rendez-vous, donc vous mettez un jingle, Greg Caranoni, pour dire que précisément on ne va pas à Roland Garros.
Exact.
Oui, Greg fait ce qu'il veut, et pendant le flash à 14h, que fait notre réalisateur parce qu'il adore ce jingle?
Roland Garros 2021.
C'est sur RTL.
Vous êtes sûr que vous voulez aller à Roland Garros alors que les matchs n'ont pas commencé, Olivier Bois?
Mais je crois qu'il n'y a personne à Roland Garros.
Ah non, mais il n'y a personne parce que vous savez pourquoi?
Mais du coup, je ne sais pas du tout pourquoi Grégory a lancé ce jingle.
Les matchs commencent à 15h30.
Lui que vous encensiez vient de faire une erreur quand même majeure.
Mais pas du tout.
Oh, l'attaque d'Olivier Bois à 14h. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'était une émission très particulière.
Un guest dans l'émission.
Un guest. Dès que quelqu'un entre, nous on l'invite.
Oh, quel est le VIP qui nous a rejoint?
C'est monsieur Castaldi, Giovanni de son
prénom. Ah, vous vendez la mèche direct.
Je vends la mèche de cheveux de Castaldi, elle vaut cher, vous savez, parce que les garçons, les filles se l'arrachent, mais bon.
Giovanni Castaldi, le tombeur de Neuilly, une mèche qui fait rêver mon crâne rasé, le succès est immédiat.
Disiez qu'il avait un succès fou, en effet, il y a des filles qui sont venues en régie directement.
Ah non, mais
incroyable.
Mais Giovanni Castaldi, bon, il y a des gens qui, voilà, c'est une chance, ils sont nés avec un physique comme cela, bon, bah, faut pas être
jaloux. Vous allez vous gêner. Un dernier mot, Pascal, avant de se quitter.
Merci de mémoire beaucoup. De Yorkshire, jamais les gens qui étaient présents n'avaient vu leur maître aussi courroucé.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec l'hymne de Giovanni quand il arrive dans notre studio.
C'est fou. Les charmes. Christophe, c'est formidable. Je salue Madame Flamand qui fait son entrée. A tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur